Je vais lire le petit texte qu'on avait vu la semaine dernière avec Pierre, et puis on priera, et puis on continuera avec notre texte de ce soir. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et les sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint se placer sur l'autel, il tenait un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui tenaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci que tu es souverain, que tu règnes au ciel. Merci que tu nous aimes, que tu nous fais grâce, que tu souhaites que tous soient sauvés et qu'aucun ne périsse, Seigneur. Aide-nous à lire et à comprendre ce texte ce soir et à en retirer ce que tu veux qu'on en retienne. Que ça puisse être quelque chose qui nous bénisse chacun là où nous sommes dans nos vies, Seigneur. Sois glorifié ce soir, sois élevé. Parle-nous. Amen. Donc, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qu'a dit Pierre la semaine dernière sur ce premier passage, ce qui était là. Le septième sceau, le silence, l'encensoir.
Tremblement de terre.
Des choses qui vous avaient marqué la semaine dernière, dont vous vous souvenez par rapport à ce texte. On avait noté le silence d'une demi-heure qui était, on pouvait se dire, pas grand-chose, mais qui au ciel où la louange se perpétue de toute éternité. Il y a les anges qui se tiennent devant le trône et qui louent le Seigneur. Et on a vu des foules de personnes dans les chapitres précédents qui louaient le Seigneur. Et d'avoir ce silence pendant une demi-heure, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un peu comme un grand calme avant les trompettes. Pas la tempête, mais les trompettes. C'est comme si le ciel était presque choqué de ce qui allait arriver. Il y a cet ange qui vient se placer sur l'autel, qui tient un encensoir d'or. On a dit qu'éventuellement ça pouvait être Jésus qui exercerait les fonctions de comme le grand prêtre dans le temple. Notre souverain sacrificateur qui présentait les sacrifices devant Dieu. Et ses prières. C'est intéressant de se rappeler le Notre Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et On peut dire que ces prières, Jésus nous a dit de prier comme ça il y a 2000 ans. La quantité de personnes au cours de l'histoire qui ont prié cette prière, et de se dire que finalement le royaume de Dieu, cette prière n'est pas encore finalement complètement accomplie. Et c'est comme si ces prières qui sont offertes là, devant le trône de Dieu, sur l'autel, c'est comme si Dieu répondait avec ces jugements qui vont venir. Et on voit que quand l'ange prend l'encensoir et le remplit du feu de l'autel, il le jette sur la terre. Et là, les sept anges se préparent à sonner des trompettes. ces sept anges, qui sont-ils, à votre avis? Vous avez des choses par rapport à ça? D'après la tradition juive et certains textes catholiques, la tradition catholique, pas dans le canon biblique que nous on adopte, il est mention de sept archanges qui se tiendraient devant Dieu pour faire sa volonté. On en connaît quelques-uns pour les avoir. Raphaël. Alors, je ne connais pas tous les noms, mais Michel, il y en a un, Uriel, il y en a sept a priori dans la tradition, et juives et catholiques qui se tiennent devant Dieu pour faire sa volonté. Et donc ce seraient ces sept anges, les archanges. Il y a des hiérarchies dans les fonctions des anges. Ils ont différents rôles, différentes positions. Et ces sept anges ont une position spéciale. Et donc ils se préparent à sonner des trompettes. Et juste pour le rappeler, je l'ai déjà dit, mais ces histoires de sceaux et de trompettes et de ce qu'on verra plus tard, de coupe ou de bol, c'est pas forcément des choses qui se passent dans un ordre chronologique pur, l'un après l'autre, et quand l'un se finit, l'autre se poursuit. Il y a des chevauchements, il y a des choses qui se superposent, il y a des similitudes. On le verra pas vraiment aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais il y a de grandes similitudes entre les chapitres 8 et 9 et les chapitres 12 et 13 qu'on verra plus tard. C'est un peu comme s'il y avait différents niveaux, différents étages de compréhension, de vision de ce qui se passe dans différents endroits, c'est un peu comme simplement dans un film, quand ils vont filmer certains endroits, si on prend par exemple Le Seigneur des Anneaux, qui sont des films que je connais bien, si on prend les batailles, il y a des parties, des batailles qui se passent dans la cité, dans la partie fortifiée, dans la plaine devant, des choses qui se passent dans les airs, des choses qui se passent à différents endroits. Et donc ces différentes choses sont différents étages de ce qui se passe pendant cette période de la fin des temps. Et c'est difficile d'être catégorique sur l'enchaînement exact de ces événements. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sûr qu'ils vont arriver et qu'on comprend que Jésus revient et qu'il vaut mieux être de son côté. On essaiera de faire sans doute à un moment, peut-être quand on aura vu les différentes choses, de revenir et de voir les différents niveaux pour essayer de donner un peu une vue complète. Ce soir, on va se concentrer sur les trompettes en question dans ce texte. Et c'est vrai que des fois, on lutte un petit peu, on a envie d'avoir toute la vision, tout le panorama. Mais ce soir, on va essayer de se concentrer et on essaiera de plus tard de revenir, de faire une pause et de dire bon ben, quels éléments correspondent, comment ça s'enchaîne un peu tout ensemble. Donc, ce silence, on a l'impression qu'il y a c'est encore une fois un peu comme dans un film, quand vous voyez les actions se dérouler, qu'il y a un silence, qu'on a l'impression quelque chose d'un peu bizarre ou de...
La musique.
Des fois dans les scènes de guerre où les gars se prennent un obus et puis ils sont dans le silence et on les voit courir, mais il y a encore tout qui se déchaîne autour d'eux. C'est un peu moi l'impression que ça m'a fait en y pensant. Et donc ce silence d'une demi-heure, on a l'impression qu'il prend fin avec les trompettes. Un des commentateurs que je lisais s'est beaucoup attardé sur la comparaison entre cette histoire de silence et puis des trompettes qui arrivent et qui foudroient tout, avec l'épisode des Israélites et de Jéricho, où ils font le tour de la ville pendant 7 jours sans bruit, il y a un silence, il y a un, quelque chose qui se passe, et puis là, quand il passe et qu'il y a les trompettes qui sonnent, là, ça, il y a tout qui se détruit. Et donc il y a des parallèles à chercher là-dedans, mais encore une fois, on ne va pas s'y attarder trop ce soir. On va se plonger tout de suite dans les trompettes en lisant verset 7. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé et toute herbe verte fut consumée. Le deuxième ange sonna de la trompette, une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci et que le jour perde un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre » à cause des autres sons de la trompette que les trois anges vont faire retentir. Amen. Est-ce que sur ces choses, ce premier passage-là, il y avait des choses en le lisant, pour ceux qui ont pris le temps de le lire cette semaine, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé là dans cette partie-là? Est-ce que vous avez des questions, des choses qui vous semblent un peu fou, juste pour les dire, et après on essaiera de regarder. Oui, non.
Oui, son. Vas-y.
Non, c'était juste. Moi, je sais pas si ça a une importance, mais c'est cette histoire de tiers que je ne comprends pas trop, quoi. Mm-hmm. Qui revient tout le temps, et donc ça doit avoir un sens, mais je.
Mm-hmm. D'accord. On va en parler brièvement.
Que j'ai vu sur cette première partie, c'est que je trouve que c'est orienté vers la nature, mm-hmm. vers tout ce qui est la mer, la terre, le soleil, les étoiles. C'est vraiment cette partie-là, ça semble être pour la création.
Mm-hmm. Ça reprend l'ordre de la création au début. Mm-hmm. Oui. Il y a parlé aussi avec les pieds d'Égypte.
Mm-hmm. Ouais. Donc ça, oui, il y a des, c'est des bonnes remarques, c'est des choses dont on va parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont choqué là dans ce passage-là?
J'ai toujours pensé la même chose qu'elle, parce que avant c'était le quart, et ici c'est le tiers.
Et un quart plus un tiers de ce qui reste, c'est la moitié.
Oui, c'est
les mêmes. Ça, on va regarder aussi.
On va regarder une pizza.
On peut faire ça de ciel.
Tombe du ciel.
Il y a beaucoup de choses qui tombent du ciel, oui.
Il y avait ramassé par un aigle. Là, c'est...
Ouais. Cool. Ok, ben on va regarder tout ça. On va commencer avec le verset 7. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut consumé, le tiers des arbres fut consumé et toute herbe verte fut consumée. C'est moi la première, enfin la chose qui m'a choqué, c'est de me dire de la grêle et du feu. Ça va pas dans le ciel. C'est des choses qui, pour moi, donc il y a, on ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas. Alors il y a des explications des gens au cours de l'histoire ont grandement évolué. Nous aujourd'hui, on a des choses militaires, des choses qu'on connaît, qui peuvent ressembler à ce genre de choses, certaines armes nucléaires qui peuvent causer des choses assez horribles au niveau de la nature. Ça peut être des problèmes de pollution, ça peut être des histoires de volcans, des météorites ou des astéroïdes. On a des récits d'impact d'astéroïdes ou de météorites par les archéologues ou les historiens de la Terre qui sont assez impressionnants. Il y a notamment un épisode en 1908, il y a a priori une astéroïde qui est entrée dans l'atmosphère terrestre au-dessus de la Sibérie et qui a explosé. Et ils n'ont pas été tout de suite, parce que c'était très très loin pour les Russes, même à l'époque. Et ils ont été seulement 20 ans plus tard, et ils ont trouvé sur un rayon de genre 100 km des arbres complètement aplatis, avec toutes les corps enlevées. Ils ont fait pas mal d'études, de recherches par rapport à ça, mais ils ont remarqué en Europe occidentale en 1908 des nuits pendant cette période-là où il faisait beaucoup plus clair. La nuit, il y avait des soirs où les gens pouvaient lire le soir très tard. Il y avait une luminosité très bizarre dans le ciel. Et ils pensent que c'est lié à cet épisode-là. Il y a des gens qui étudient, encore une fois, si vous voulez, sur Wikipédia, il y a des choses très intéressantes là-dessus et plein de liens vers des articles connexes qui en parlent. Et c'est des phénomènes assez incroyables. Mais quand on étudie ce genre de phénomènes, les volcans, les choses qui peuvent arriver, toutes ces choses dans ce livre semblent plus envisageables, je dirais. Peut-être que pour des gens qui ne connaissaient pas tous ces phénomènes. Et donc on ne sait pas exactement ce que c'est. On ne sait pas si c'est ces choses-là, des choses naturelles qui se passent. On sait que c'est quelque chose que Dieu cause. C'est à cause de la trompette, c'est un jugement. Donc en gros, ici, c'est un bouleversement de la végétation sur la Terre. C'est un tiers des arbres. Toute herbe verte. Alors, il y a des choses aussi. Quand on regarde... S'il y a des problèmes, par rapport au seau, il y a différents problèmes avec le. Où on a l'impression que le soleil devient noir comme un sac de crin, qu'il y a des problèmes avec l'environnement. Alors peut-être s'il y avait par exemple une sécheresse longue sur la terre. Avec les, notamment, disons que si, quand il, enfin, imaginez qu'il y ait une sécheresse très longue pendant un an. Et qu'après il y ait le feu qui arrive, ça peut d'un coup vraiment dévaster des forêts entières, des régions entières très rapidement. Alors c'est des choses difficiles à expliquer encore une fois catégoriquement. Certaines personnes tentent de s'engager ici dans des explications symboliques de tous ces événements, essayer de trouver des symboles. Il y a des gens qui disent que les arbres et l'herbe représentent l'homme. D'après des passages dans l'Ancien Testament où l'homme est comparé à l'herbe qui se lève en un jour et qui flétrit le lendemain, et que les arbres, c'est les puissances humaines. Nebuchadnezzar, dans Daniel, est comparé à un arbre qui grandit, qui est fort. Et donc certaines personnes disent, c'est peut-être symbolique de Dieu qui détruit l'autorité, la puissance de l'homme, qui... C'est difficile à défendre. C'est symbolique, donc c'est très. On verra qu'il y a encore des explications symboliques pour les choses qui suivent et elles sont encore là, plus difficiles à défendre. Mais je voulais juste vous les donner parce que c'est des choses qui sont mentionnées dans pas mal des commentaires. C'est peut-être les deux aussi. C'est pas impossible non plus que Dieu fasse un peu les deux choses en même temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce verset 7?
En cherchant sur la graine, il dit que le feu et la graine sont les exécuteurs de ses jugements. C'est par dans le psaume, il dit ça. Mm-hmm. Et puis aussi autre chose que j'ai trouvé assez marrant, qui m'a étonné, il dit dans les deux Job, il dit qu'il s'est fait une réserve de graines dans le ciel pour justement les matins qu'il va y avoir.
Mm-hmm. En parlant de Job, à Job, il lui dit, est-ce que tu es allé au ciel voir les réserves de graines qui sont... Donc c'est effectivement, c'est aussi un épisode qui fait penser à Sodome et Gomorre en partie. Le soufre qui descend du ciel. L'idée de...
En même temps qu'il y a des éclairs, il y a souvent de la graine.
Dans Job, je crois que c'est 38, quelque chose.
En même temps qu'il y a des éclairs, parfois il y a de la graine.
Oui, alors après, voilà, il y a des différentes tentatives d'explication. Le feu, ils disent que c'est éventuellement oui, des choses avec des éclairs. L'idée du rouge, ils disent que du sang, c'est peut-être juste la couleur rouge, des choses avec... S'il y a beaucoup de feu sur la Terre, ça peut donner une couleur rouge à l'atmosphère ou des choses qui... Enfin, voilà. Versets 8 et 9. Le deuxième ange sonna de la trompette. Une sorte de grande montagne embrasée fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Donc on a quelque chose qui ressemble à une grande montagne, le tiers de la mer qui devient du sang, le tiers des créatures qui meurent, le tiers des navires détruits. Qu'est-ce que c'est que cette montagne? Là aussi on ne sait pas. Une bombe atomique, une éruption. Ce qui semble être avancé le plus souvent par les commentateurs par rapport à une explication scientifique pure, c'est un impact d'astéroïdes ou de météorites qui tombe dans la mer et qui peut. Alors ils ont des épisodes dans l'archéologie, l'étude de l'histoire de la Terre, ils ont des choses, des explosions avec des volcans ou des choses où ça peut avoir de grands impacts sur l'écosystème marin. On ne sait pas. Ici, une question qui est avancée souvent aussi par les commentateurs, c'est l'idée que la mer, pour les gens de cette époque-là, c'était la mer Méditerranée. Et qu'ils n'étaient pas forcément très au fait des autres mers, comme nous on peut l'être, et qu'éventuellement c'est quelque chose qui est peut-être propre à la mer Méditerranée. Là aussi, on ne sait pas. Ici, pour les gens qui essaient d'aborder une explication symbolique de la situation, de ce qui se passe, ils essaient de dire que la mer... souvent dans la Bible est utilisé pour représenter les nations, et que la montagne, ça pourrait être Satan ou un ennemi ou quelque chose qui remuerait en quelque sorte, qui causerait une sorte de rébellion de la mort parmi les nations. Mais là aussi, ils ont pas vraiment d'explication à ce moment-là pour les navires ou pour les créatures. Il n'y a pas de choses symboliques vraiment pour représenter ces choses-là, donc c'est un peu farfelu quand on commence à se lancer là-dedans. Quoi qu'il en soit, là c'est tout l'écosystème marin qui est on peut s'imaginer les problèmes que ça posera aussi aux hommes. Pour le premier, ça posera d'énormes problèmes au niveau de l'agriculture, de l'économie, de la nourriture. S'il y a toutes les plantes, s'il y a un tiers des plantes sur la Terre qui sont brûlées, s'il y a vraiment des choses de cette taille-là, et là aussi, avec la mer qui, d'un coup, les navires, si un tiers des navires est détruit, on a une grande partie du commerce international qui est mise à mal. On a la nourriture pour beaucoup de gens avec le poisson, les problèmes éventuellement avec cette eau qui se transforme en sang. Alors, c'est quelque chose de vraiment très grave. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
Est-ce qu'il y a
Non. Ou des remarques. Versets 10 et 11. Le troisième ange sonna de la trompette et tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux devenues amères. Donc il y a encore quelque chose qui tombe. Là aussi, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ce mot absinthe, le nom de cette étoile absinthe, c'est aussi, ça peut être traduit par amertume ou poison amer. C'est l'idée que les eaux deviennent imbuvables.
Tu sais comment ça se dit en russe ?
En russe, non, je ne sais pas, non.
Tchernobyl.
D'accord. Donc là aussi, une des positions, encore une fois, avancées là, c'est éventuellement la guerre nucléaire et le problème si l'eau était contaminée avec la radioactivité par une guerre nucléaire qui ferait que les eaux potables ne seraient plus potables si elles étaient contaminées. Il y a d'autres explications, encore une fois, avec les astéroïdes ou les météorites qui, quand elles tombent, si elles explosent à une certaine altitude, alors il y a différentes choses qui peuvent se passer. Il peut y avoir de la poussière ou à cause des volcans qui contaminent les sources d'eau, qui posent des problèmes au niveau de la potabilité de l'eau. C'est encore une fois beaucoup d'explications possibles. Cette idée d'absinthe ou de quelque chose d'amer est présente dans pas mal de parties de l'Ancien Testament, en Deutéronome, Proverbe, Jérémie, Lamentation, Amos. Je ne vous donne pas les références exactes, mais vous pouvez le chercher. Il y a pas mal d'épisodes différents avec cette idée d'eau imbuvable. Avec Élisée, qu'on va voir notamment dans Deux Rois. Et là aussi, on a tout un système écologique. On sait que les ressources en eau potable sont quelque chose qui sont essentielles à la vie, qui nous posent même aujourd'hui de grands problèmes. Mais s'il y a encore quelque chose de cette envergure-là, ça va encore plus poser problème à l'homme. Être la cause de pas mal de tensions et de guerres, j'imagine. Au niveau des idées symboliques, l'idée de la source d'eau, c'est l'idée de la doctrine ou de la parole de Dieu. Et l'étoile, ce serait le mensonge ou la pollution de la sainte doctrine ou l'hérésie. Éventuellement, des choses menées par l'Antéchrist pour polluer la parole de Dieu avec des choses mensongères. Là, par rapport à ces explications symboliques, il y a encore une fois eu des foules et foules d'explications, que ce seraient les Origène, Arius, tous les hérétiques possibles au cours de l'histoire. Et vous pouvez aller, si vous regardez en ligne, vous trouverez tout le monde mis comme étant celui qui tombe dans la mer et qui... dans l'eau et qui pollue l'eau. Il y a des choses dans Deutéronome 29, 15 à 20, ou dans Amos 5, 7, vous pouvez aller regarder, c'est des épisodes qui donnent un petit peu des textes qui parlent de cette idée d'amertume comme étant quelque chose qui pollue le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ?
Est-ce qu'il y a aussi, quand Isaïe parle de la chute du roi de Babylone, aussi, comme un astre brillant qui tombe du ciel, ça faisait penser un peu à ça aussi.
Mm-hmm. Je pense qu'il est plus semblable à celui qui vient dans le début d'Apocalypse 9. Mais il y a des gens qui aussi en parlent comme une possibilité. D'autres commentaires ou questions par rapport à ça?
Je pense à Jean et il voit toutes ces choses dans sa tête.
Ça demande, c'est quelque chose, un grand écran plat. Qu'est-ce qu'il voudrait se situer avec son vocabulaire et ses connaissances, il voit des choses qu'on connaît même pas nous, il utilise les mots qu'il connaît, des hélicoptères, ça c'est dans le chapitre 9, on y parlera. D'autres commentaires par rapport à ce verset-là? Sinon, on regarde le verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci et que le jour perde un tiers de sa clarté et la nuit de même. Là, alors, on ne sait pas exactement cette idée de tiers de clarté. On ne sait pas si c'est que c'est obscurci ou si c'est qu'il y a vraiment un dérèglement des cycles jour-nuit ou si c'est juste, par exemple, qu'il y a de la poussière qui fait que le soleil est moins brillant. Quoi qu'il en soit, là aussi, ça va être un bouleversement... aux conséquences dramatiques, par exemple pour l'agriculture, encore une fois, s'il n'y a plus le jour et la nuit, au niveau de la chaleur, si il n'y a plus le soleil ou que c'est moins, il y a de la chaleur du soleil, il y a moins d'influence sur le climat de la terre, sur les cycles. Alors on sait avec, on a eu il y a quelques années, on nous foutait la trouille avec El Niño. Après c'est le réchauffement de la Terre, et on sait que ça peut peser juste un degré pendant l'année, d'un coup ça tout change, tout sort de ce qu'on connaît, du contrôle. Et là, si on perd un tiers de l'influence du soleil en chaleur, ça, c'est des choses, encore une fois, qu'on n'arrive pas vraiment à imaginer, et qui peuvent complètement changer tous les écosystèmes, toute la nature et comment elle fonctionne, comment tout tourne, les animaux, énormément de choses.
Il y a aussi pas mal de propagandes un peu irrationnelles. Soi-disant la fonte des neiges, la fonte de la banquise va faire monter le niveau de l'eau. Ça existe parce que quand tu mets un glaçon dans un verre d'eau, quand ils font, le niveau de l'eau ne monte pas. Au contraire, il diminue parce que la glace prend plus de ça. Il y a des choses qui sont complètement utilisées pour foutre la trouille, comme tu fais.
Non, mais ça, c'est un autre.
C'est un autre versant des choses, mais c'est intéressant de. Mmh. On l'a vu.
Donc, tout ça. Ça va laisser le monde dans un état assez désastreux, dans l'obscurité, sans eau, sans plantes, sans.
La mer qui a rougi.
Alors on n'arrive pas à l'imaginer, on n'arrive pas à comprendre. Et avec toutes ces perturbations climatiques, tous ces problèmes. Sur l'écosystème de la Terre, ça va évidemment engendrer énormément de tensions au niveau géopolitique entre les hommes. S'il n'y a plus d'eau à boire, on va se battre pour avoir l'eau à boire. Ça va être au plus fort, ça va être qui ? Ça va être assez tendu, j'imagine, qu'on arrive à se battre actuellement. Si on arrive à ce genre de situation, ça va être vraiment quelque chose. Et là aussi, on a l'impression que c'est un peu une préparation de ce qu'on verra plus tard avec le gouvernement de l'Antéchrist. Ces bouleversements, ces choses et ce chaos. Ce sont aussi des choses qui ressemblent beaucoup à ce qui est dans Matthieu 24, 29. C'est un texte qu'on avait regardé. Et là, c'est intéressant de noter aussi que c'est comme si Dieu prenait toutes les choses que l'homme prend pour argent comptant et il les met. Nous, on se lève le matin et bon, si c'est le changement d'heure, on est un peu perdu, mais sinon, on s'attend à ce que le matin il y ait le jour, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait les saisons, qu'il y ait l'eau, qu'on n'ait pas de. On prend plein de choses pour comme étant presque des dieux, et c'est comme si Dieu prend tout ça et le secoue. Il prend toutes ces choses qu'on a l'habitude depuis toujours d'avoir, qui se déroulent, ces cycles qu'on étudie, tout se passe normalement, tout, rien ne change, rien ne bouge, on est dans un. Voltaire disait qu'on est comme dans une horloge sans horloger, que ça tourne tranquille. Et là, Dieu, il secoue le tout. Et cette idée de tiers, c'est comme si Dieu se retenait. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Pour moi, c'est comme si Dieu, même dans tout ce chaos, dans tout ce qu'il fait comme jugement, c'est comme s'il disait, bon, regardez ce que je peux faire, mais je ne vais pas tout détruire encore. Il y a sans doute des explications plus ésotériques à cette idée de tiers et de chiffres et de choses. Mais je pense que, et on va le voir dans le chapitre 9, Dieu fait toujours grâce, même dans le jugement, même dans la cette destruction de la terre. Il y a quand même toujours un. Dieu, il peut tout détruire d'un coup, et il y a toujours une sorte de ralentissement, et on ne sait pas pourquoi. Et donc, ces quatre premières trompettes amènent un jugement sur la terre. C'est un peu semblable. Ça rappelle, on avait une coupure avec les quatre premiers sceaux, qui était quelque chose qui avait l'air de plus se passer sur la terre, et après on avait des choses qui avaient cette distinction avec les quatre premiers et les trois après. Il y a des gens qui se perdent aussi en conjoncture par rapport à ces choses-là. Les deux trompettes qu'on va voir dans Apocalypse 9, ce sont des choses qui atteignent directement l'homme. Ce ne sont plus des choses qui atteignent la nature vraiment, mais qui sont vraiment dirigées contre l'homme. Et un commentateur disait, alors c'est pas complètement, ça ne s'applique pas pleinement, mais disait que les sceaux, c'était un peu comme si c'était l'homme livré à lui-même, que les trompettes. Surtout dans ce qu'on va voir après, c'est un peu quand Satan a le pouvoir de faire les choses aux hommes, et que les bols ou les coupes, c'est plus le jugement directement appliqué par Dieu aux hommes.
Tu peux répéter, j'ai pas trop compris cette interprétation.
Disons que c'est un peu pour distinguer, pour dire pourquoi il y a des. Quelle est la différence un peu entre les coupes, les trompettes et les bols? Pourquoi il y a ces différentes catégories? Et il y a. Alors c'est un peu difficile d'être catégorique ou de dire que ça c'est caractérisé d'une manière ou d'une autre, mais on a les choses qui se passent dans les sceaux, c'est un petit peu. Plus les choses que peut-être que l'homme inflige par son action, et ces choses-là sont peut-être plus on va dire l'effet de Satan ou de l'enfer sur la terre, et que les bols ou les coupes, c'est vraiment des choses que Dieu déverse lui directement sur l'homme. On le verra quand on verra les coupes et les bols.
Non. Oui. Moi, je suis dans une conférence d'un général de la mer de terre sur le nucléaire, d'accord? Il a dit, lui, que comme en fait, il venait sur le problème du nucléaire, que doucement, doucement, on allait à beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Et lui, il a parlé pour 2050, la guerre de l'eau. Qu'il y a beaucoup de pays qui sont
ça, on le sait, oui. Qu'il y a un problème, il y a un problème déjà avec l'eau et que le nucléaire, il y a un réarmement qui se fait au niveau.
Et en plus, le truc qu'il fait pour faire de l'électricité, ça va faire
4. On verra.
Par rapport au tremblement de terre, on n'a l'air de pas réaliser qu'on est sur les mêmements fusion. Mmh. Il y a du mouvement en permanence en dessous, hein, nous avertit pas. Mmh. Quand ça bouge. Mmh. Donc, là aussi, c'est vraiment intéressant. Enfin, je vous rabâche mon Wikipédia, mais quand vous lisez, c'est fou de voir les choses qui. Quand vous cherchez, là, je vous ai parlé de cet événement. S'appelle c'est l'événement de la Tunguska, un objet. Alors ils disent que c'est, ils l'appellent Logdi, qui était un des dieux des peuplades au fin fond de la taïga sibérienne. Et ça, ou des explosions, de regarder les explosions des volcans dans l'histoire, de voir les cataclysmes qu'il y a eu, de voir si vous connaissez l'île de Santorin, ils disent que c'est ça qui a détruit toute la civilisation crétoise. En cherchant un petit peu, il y avait des gens qui se référaient à des explosions volcaniques qui ont eu lieu au début du siècle aussi dans les îles Aléoutiennes, qui sont entre l'Alaska et la Russie, et où ils disent qu'il y a eu des grands problèmes avec la pêche et l'écologie marine à cause de l'explosion et de toute la poussière qui retombait dans la mer de partout, et que ça a tué pas mal de poissons et rendu les eaux imbuvables.
Mais il y a vraiment un volcan qui a dégagé beaucoup de fumée au nord de l'Islande. Les aéroports à Paris étaient fermés quand il y a eu fumée.
Oui. Ça, je trouve que c'est intéressant, et ça. Un peu ce qu'on disait la semaine dernière ou il y a deux semaines sur les par exemple les tremblements de terre, où on a l'impression que quelque chose est solide et que Dieu, en fait, il le secoue comme une feuille de papier, c'est rien. Et dans cette période de jugement de Dieu par de l'homme, c'est vraiment un moment où Dieu leur dit, bon, vous me rejetez, vous m'acceptez pas, je vais vous montrer ce sur quoi vous appuyez, c'est pas solide. Et l'objectif, c'est pas juste de tuer, mais on va le voir plus dans le chapitre 9, c'est de dire, venez à moi. C'est de dire, c'est moi qui règne. Toutes ces choses dans lesquelles vous mettez votre confiance, votre espoir, sont des choses que je peux retourner en un clin d'œil. C'est combien de civilisations ont des dieux qui sont basés sur les étoiles, sur les planètes, sur les cycles, sur la nature, sur les animaux, sur la mer, sur les montagnes, sur toutes les choses qu'on a dans la nature. L'homme, c'est dans Romains, on nous dit que l'homme s'est perverti, s'est mis à adorer la création au lieu d'adorer le Créateur. Et Dieu, pendant cette période de tribulation, il remet les choses à l'endroit. Il dit, regardez, tout ça, je claque des doigts et c'est parti. Et de lire des événements cataclysmiques qui ont eu lieu au cours de l'histoire, pour moi, en tout cas, ça me permet de mieux visualiser ces choses et ces jugements, et de comprendre un petit peu peut-être l'étendue ou la gravité de la situation ici. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions par rapport à ces choses-là? Verset 13. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Là, ça ne rassure pas. Passe, il dit, bon, vous avez déjà pris cher, mais malheur à vous pour ce qui suit.
Mais attends, trois fois, donc c'est les trois malheurs à venir.
Ouais, donc là, vraiment, cette idée d'aigle, dans les différentes interprétations, en grec ancien, les mots aigle et ange étaient assez proches, donc ils disent qu'il y a peut-être il y a certaines traductions qui traduisent ange. Il y en a d'autres qui disent éventuellement, on a vu les anges qui se tenaient devant le trône de Dieu, qui avaient des visages, une partie de leur visage qui était comme un aigle, et qu'éventuellement ça pourrait être Jean qui a vu un ange passer, et puis qui a un peu... On peut comprendre s'il a du mal à tout complètement saisir. Mais déjà, on sait que c'est pas un ange, un aigle comme on le connaît nous, parce qu'il parle. Il parle aux habitants de la terre. Mais il se lamente sur les habitants de la terre à cause de ce qui va suivre au chapitre 9. Et on va voir que notamment un tiers des hommes qui ont réussi à survivre à tout le reste vont mourir dans le chapitre 9. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ce chapitre 8 ou des questions?
Le chapitre 8, vraiment, il touche pas aux hommes.
C'est la nature.
Ouais, c'est le cas. Mais je reviens, parce qu'il m'avait frappé, c'était le même ordre que la création. La terre, la mer, les arbres, les astres.
S'il n'y a pas de questions, de commentaires ou de choses à dire, on peut faire une pause. Et on verra le chapitre 9 après. Je vais lire à partir du verset 1 du chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, des sauterelles sortirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elle causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des poitrails comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme dont le nom hébreu est Abaddon et qui en grec se nomme Apollyon. Le premier malheur est passé, voici que 2 malheurs viennent encore après cela. Donc, 5e trompette. Une étoile qui était tombée du ciel, à qui on donne la clé de l'abîme. Est-ce que vous avez des idées sur qui pourrait être ou ce que pourrait être cette étoile tombée du ciel? Vous pouvez le dire. Oui. Donc c'est Satan qui, dans la Bible, et auquel on fait référence dans plusieurs passages comme étant un astre tombé du ciel. Dans Isaïe 14 et dans Luc 8:31. Donc, 10-18, Luc 10-18, donc, a priori, il s'agit de Satan ici, qui est cette étoile qui était tombée du ciel. On note une différence dans les temps ici, c'est quelque chose qui est avant ce que Jean voit. Jean ne voit pas l'ange, cette étoile tombée du ciel. Il dit cette étoile était tombée du ciel. Donc là, il y a une distinction, quelque chose qui s'était passé avant, et donc ça correspond bien à Satan. l'abîme. Vous savez ce que c'est ?
Le séjour des morts.
Alors, il y a toute une. On va dire. Topologie. Il y a différentes. Il y a des gens de quand on regarde, il y a différents niveaux, endroits, avec l'enfer, le séjour des morts, le lac de feu, l'abîme, et donc il y a une organisation par rapport à toutes ces choses. L'abîme, on en entend parler dans Luc 8:31, il y a un épisode où il y a un homme qui est possédé par des démons, qui disent qu'il s'appelle Légion. Et quand Satan et quand Jésus vient pour libérer cet homme, ces démons implorent Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais de les laisser aller dans le troupeau de porcs qui après se précipitent et qui tombent dans la mer et qui meurent. Et donc après on ne sait pas où ils vont, les démons, mais ils étaient au courant de cette idée d'abîme. Il y a dans 2 Pierre 2:4 et dans Jude 6. Et l'idée, c'est que c'est un endroit où... il y a une idée que c'est un endroit où certains démons ou certains anges déchus sont prisonniers dans cet endroit. Qu'il y a aussi les âmes des hommes damnés qui sont mis dans l'abîme.
Les hommes quoi ?
Des hommes qui sont damnés, qui ne sont pas sauvés. C'est intéressant, ce sont des choses qui nous inquiètent un petit peu, ou sur lesquelles les gens soit en font toute une salade et ne passent que leur temps à essayer de comprendre les rangs des démons et des choses. Mais il y a des choses qui sont dites dans la Bible qu'on peut sortir et trouver sur disons l'organisation des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et une des choses qu'on voit par rapport à ces textes, c'est que il y a des démons ou des anges déchus, des créatures spirituelles qui servent Satan, qui sont libres, qui agissent, on a vu avec Jésus, qui viennent faire des choses dans le monde. Et il y a aussi des anges déchus ou des démons ou des puissances de Satan qui sont enchaînés ou qui sont attachés, que Dieu a pour une raison ou pour une autre restreint dans leur liberté d'action, dans ce qu'ils peuvent faire. Il y a certaines personnes qui avancent qu'éventuellement c'est ceux qui sont dans l'abîme, ce serait éventuellement les anges qui avant le déluge auraient eu des relations avec les hommes. Il y a des choses où ils seraient venus sur la terre pour en anglais c'est les Nephilim,
ça c'est leur fils,
oui, ça c'est le fruit d'union entre anges et hommes, ce serait les Nephilim. Donc c'est un peu
des
géants, oui, c'est à voir dans la Genèse. Quoi qu'il en soit, cet abîme est fermé. Il y a des puissances démoniaques, des créatures spirituelles qui servent Satan, qui sont enfermées là-dedans. On ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas. On sait qu'ils y sont. Et dans ce passage, on a Satan qui est sur terre, qui va ouvrir cet endroit, qui va recevoir la clé. Encore une fois, c'est bon de noter que Satan n'est pas libre à faire ce qu'il veut. Il n'est pas là à combattre Dieu dans un coin et Dieu est là à essayer de deviner ce qu'il va faire. Non, Dieu lui donne une clé, lui dit en quelque sorte, vas-y maintenant, c'est le temps, je t'accorde maintenant, ok, vas-y. C'est assez... De lire l'Apocalypse et de lire aussi d'autres passages de la Bible, notamment Job, permettent vraiment de remettre un petit peu à plat la culture contemporaine sur l'idée d'un Satan, d'une force, de cette espèce de bataille entre bien et mal, d'équilibre dans l'univers entre les deux forces qui s'opposent mais qui sont un peu au même niveau. Et c'est là où on est obligé souvent d'arrêter les comparaisons avec les films. Parce que dans les films, c'est toujours un peu une notion de le bien gagne, mais c'est un petit peu le coup de bol. Ils lâchent le tout ou rien et ça passe. Et voilà, c'est bien. Mais le mal peut toujours quand même revenir derrière. Il y a toujours un petit peu une notion de c'est jamais fini, c'est jamais. Et puis le bien ne contrôle jamais le mal. Il peut juste lutter avec ses armes et espérer que ça passe. Mais. Dans l'Apocalypse et dans la Bible, Dieu contrôle. Satan, il le laisse s'agiter, mais c'est vraiment, on le verra dans les chapitres suivants, qu'il contrôle complètement la situation. C'est presque, pour moi, rien qu'en lisant ce passage et en y réfléchissant, ça secoue un peu ma compréhension souvent de comment les choses sont organisées, où on a l'impression que voilà, quand même Satan il est quand même, et là on a l'impression que Dieu quand même avec un pantin, il dit bon, c'est presque comme avec ses anges qui lui obéissent devant son trône, ils sont aussi soumis que Satan qui lui donne un truc et dit ok vas-y maintenant, et on n'a pas l'impression que lui, pour une raison ou pour une autre, il soit il y a une grande puissance, il y a des batailles, il y a des choses qui se passent, mais Dieu contrôle. Et donc c'est au moment où il lui accorde la clé que Satan peut ouvrir. Ici, juste pour le noter, parce que je trouvais que c'était bon de le noter pour les gens qui... On avait parlé du fait que certaines personnes cherchent absolument à tout interpréter dans... Apocalypse avec des éléments symboliques. On a parlé de quelques hypothèses par rapport à ce qui se passait dans le chapitre 8. Les gens qui essaient de faire ça poussent encore dans le chapitre. Enfin, ils essaient de symboliser tout le livre, et donc ici, en essayant de le faire, ils essaient de dire que l'abîme, ce serait la nature humaine, que l'étoile, c'est la parole de Dieu. Que si on rejette la parole de Dieu, on va amener des horreurs sur la terre. Enfin, c'est des choses vraiment. On est obligé de faire des grands écarts sur la clé, on ne sait pas vraiment. Enfin, c'est vraiment des. Alors, dans certains passages, ça correspond peut-être un petit peu plus, ça semble plus cohérent. Et il y a d'autres passages où les interprétations vraiment symboliques poussent quand même. Sont très difficilement défendables, disons. Après, on veut encore une fois rester humble par rapport à ce texte. Verset 2. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Comme s'il y avait encore besoin d'obscurcir les choses après ce qu'on a vu au chapitre 8. Il y a encore une fumée qui monte. Là, on a l'impression presque que c'est comme si c'était un endroit vraiment sur la terre. Si vous allez vous balader quelque part en forêt, vous tombez sur une grande porte avec un verrou. Et vous dites, si seulement j'avais la clé. Et là, si vous la trouvez, la clé, vous êtes mal barré. Spirituellement, c'est encore des choses qu'on a du mal à comprendre, cette idée de monde spirituel et de monde réel. Verset 3, de la fumée des sauterelles sortirent sur la terre et leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Donc là, il y a une... un nuage de sauterelles qui sortent, qui ont un pouvoir pareil aux scorpions de la terre. Verset 4, il leur fut donné de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc là, par rapport à ce qu'on a lu précédemment, en arrivant là, on comprend a priori que ce sont des êtres démoniaques. Il n'y a pas de raison de croire que ce soit des hommes ou des choses humaines. Alors, il y a des gens qui s'essayent à, peut-être moins ici, mais plus sur le passage d'après, à comparer, à dire, bon ben, si on prenait Jean et on le parachutait au milieu de la guerre actuellement, s'il voyait un CRS en unité de combat avec un FAMAS qui le chargeait, comment est-ce qu'il arriverait à décrire un militaire de nos jours, ou un char, ou un hélicoptère, ou un drone, ou un... Toutes ces choses-là n'existaient pas, ils n'avaient même pas l'électricité. À quoi ressemblerait un taser pour un mec comme Jean? Un bâton avec un truc qui de l'électricité, il savait même pas ce que c'était. Lui, il était content avec une petite allumette, quoi. C'était déjà. S'ils avaient un truc en métal, c'était la pointe, quoi. Et là, de se dire que peut-être que ces choses-là, qui sont peut-être des choses que nous on connaît déjà, peuvent être dans cette imagerie. C'est pas si farfelu que ça. C'est même défendable. Moi, je tends à penser que, en tout cas sur ces sauterelles-là, il y a vraiment cette idée qu'elles sortent de l'abîme et qu'il y a une puissance démoniaque. Elles ont pour roi Satan, il y a quelque chose ici de spirituel, de pas humain. Et puis l'idée qu'elles torturent les humains, ça poserait problème aussi si c'était... S'il y avait des hommes qui torturaient les hommes, ben Dieu, en quelque sorte, on dirait, mais donc ces gars qui torturent, ils sont pas eux-mêmes torturés, donc est-ce que ça pose un petit peu un problème à ce niveau-là? Dans l'histoire aussi, là, les commentateurs, ils ont dit que c'était les musulmans, les turcs, les chrétiens, les jésuites, les protestants, ils ont pris tous les groupes pendant les croisades, pendant les ceci, pendant les guerres, ils ont essayé de faire dire que c'était l'abîme et que c'était, ça y est, ils arrivaient et que... Donc là aussi, il y a vraiment des interprétations assez farfelues qui viennent. On verra plus loin dans Apocalypse 11, 7 ou 11 et 13, quand on va voir l'Antéchrist, qu'il est probable que ce soit en même temps, à ce même moment, il sort aussi lui de l'abîme, notamment Apocalypse 11, 7 qui parle de la... Si vous voulez vite tourner, c'est la bête qui monte de l'abîme. Ça aussi, ça nous donne une idée aussi de cette superposition des choses qui arrivent, de ces sauterelles qui sortent, et puis Jean s'attarde, c'est un peu comme s'il tourne la tête, il regarde ce que font les sauterelles, et puis il revient, et puis en même temps, il y a une bête qui sort, et donc il y a un peu un... Là aussi, on a l'impression qu'il y a différents niveaux, que c'est pas vraiment purement une fois que les sauterelles sont sorties, ben après il se passe un autre truc et après il se passe un autre. C'est pas tout linéaire et parfaitement chronologique. Il y a certains commentateurs qui parlent ici d'une sorte de parodie démoniaque de la Pentecôte, comme si la Pentecôte c'était Dieu qui déversait son esprit sur l'homme pour qu'il soit des adorateurs de Dieu, et que Satan, qui aime bien contrefaire tout ce que fait Dieu, essaie de faire sortir des esprits maléfiques qui viendrait tourmenter les hommes, qui viendrait aussi, on va le regarder, mais qui les séduirait peut-être à adorer l'antéchrist, Satan, à suivre leur direction. Est-ce que vous savez un petit peu l'idée de sauterelle ou de, en français on dit locuste aussi, hein, c'est pas très commun, mais est-ce que vous connaissez les ravages que peuvent faire ces bestioles-là? Je ne sais pas si...
Je connais juste parce que c'est dans l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, on le voit avec Égypte et d'autres éléments dans l'histoire d'Israël aussi, et d'autres épisodes.
Mais j'ai jamais vu...
En vrai, bon, c'est un peu la longueur, la taille, on le tient dans la main, c'est pas très grand. Mais ce sont des bestioles, ce sont des sauterelles, a priori normales, qui, sous certaines conditions, il y a des changements morphologiques qui se passent, qui font qu'ils se mettent à se reproduire énormément, à beaucoup manger, et à voyager en groupe. Mais c'est... Enfin, les chiffres, c'est assez impressionnant. Ils disent qu'un groupe, quand ça arrive, je me souviens que notamment c'était au Madagascar et en Afrique, il y avait des choses au début des années 90 où ils avaient des gros problèmes avec ça. Ils se mettent à se développer, à se reproduire de manière assez folle, et ils peuvent faire un essaim avec plusieurs milliards d'individus qui peuvent couvrir une surface de 50 à 100 km carrés. Et qui peuvent avancer entre 100 et 200 km par jour.
Mangeant tout sur le bassin.
Mangeant tout. C'est des choses. Nous, on a réussi, l'homme moderne, avec des avancées technologiques, a réussi un peu à faire que ces bestioles-là ne nous posent plus ou moins problème. Mais dans l'Antiquité, et même dans le Moyen-Âge et des temps plus récents, c'était des menaces. Et quand vous avez plusieurs milliards de sauterelles qui se posent sur un champ et qui mangent, bah le champ, il ne reste pas grand-chose, quoi. Et il se déplace au champ d'après le lendemain et le champ d'après. Et donc, ça causait des ravages. Et donc je me souviens, au Madagascar, ils avaient des vrais problèmes avec l'agriculture dans les années 90 avec ce phénomène-là. Et ça permet un petit peu de voir l'idée, quand Jean est en train de décrire, c'est cette chose-là. C'est pas la sauterelle seule gambadant dans un champ vert où il y en a un par là et un par là. Et quand on va à la pêche, on a besoin d'en trouver un pour... Non, là, c'est vraiment l'idée qu'il y a un nuage. C'est le nuage qui arrive et on se dit que c'est un nuage. Et puis, au fur et à mesure qu'il se rapproche, on se rend compte que c'est des tonnes de bestioles qui avancent ensemble. Enfin, c'est un truc...
Satan Monte, je crois. C'est l'unique arbre qui connaît ce animal. Ça s'appelle Satan Monte en espagnol. Hein.
Ah, je sais pas.
Non, oui, Satan Monte.
D'accord. Satan Monte, oui. Et dans l'Antiquité, à l'époque de Jean, c'était pas quelque chose de bucolique où il y avait des dessins animés, où on aimait bien les petits... Non, c'était quelque chose de vraiment grave.
Il y a un passage dans Joël. En fait, Joël, au début, il dit « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le truqué l'a dévoré. » Et il faut réagir à cette catastrophe. Et il dit de le raconter à nos fils. Et donc, je vais te raconter que quand j'étais gosse, en la nuit, j'avais vu des nuages de sauterelles comme ça.
C'est comme dans l'Amazon, dans la piranha, c'est pareil. Hein. Tu tombes dans l'eau là et c'est que des petits poissons comme ça, carnivores. Ils te laissent en plein.
Ouais. Donc, ce ne sont pas des vraies sauterelles. Ce ne sont pas des sauterelles. Là, il décrit quelque chose, il essaie d'utiliser quelque chose pour le comparer encore une fois. Puisqu'il est dit qu'il ne touche pas aux arbres, à la verdure, à tout ce qui toucherait normalement, si c'était des vraies sauterelles. Ils n'ont pas le droit de toucher aux hommes qui ont le sceau de Dieu sur le front. C'est les 144 000 de la semaine dernière et peut-être plus. Oui ?
Un argument pour dire que ce ne sont pas de vraies sauterelles, c'est que dans Proverbe 30-27, il est dit que les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent plus par division. Alors qu'ici, on va voir qu'il y a un roi qui est l'ange de la ville, qui les contrôle.
Mmh. Il y a aussi la description verset 10 qui est quand même, enfin 7 à 10 qui est quand même pas, c'est pas des vraies sauterelles non plus. Mais effectivement, c'est un des arguments avancés. Et donc, verset 5, il leur fut donné non de les tuer, les hommes, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. Donc tout ce qu'ils ont le droit de faire, c'est de tourmenter les hommes avec des piqûres comme les scorpions pendant 5 mois. A priori 5 mois, c'était la durée de vie normale des sauterelles. Alors, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà fait piquer par des scorpions ? Quand j'étais en lune de miel avec ma femme au Mexique, un jour j'étais assis dans la cuisine et je me suis levé pour aller chercher un truc et je suis revenu à la chaise où j'étais assis. Et là où j'aurais posé mes fesses, il y avait un scorpion qui faisait bien. Et le truc, je peux vous dire que c'était impressionnant, qui bougeait. J'ai jamais vu, je ne savais pas que ça bougeait aussi vite. J'ai voulu l'écraser.
Imagine, on ne peut pas tuer.
C'était assez incroyable.
Il y avait
des Mexicains qui étaient là, qui quand ils l'ont vu, on l'a attrapé dans un bocal, et quand les Mexicains l'ont vu, ils ont flippé, et ils ont dit non, il faut pas essayer de l'écraser, ça le tuera pas, ils ont voulu le mettre dans les toilettes et le faire partir dans les canalisations. Et quand on a mis au fond des toilettes en tirant la chasse d'eau, le truc il s'est accroché au fond et donc il partait même pas avec l'eau qui partait dans la rue. Il était là, on avait l'impression d'avoir un petit démon là, mais ça me. Déjà les piqûres d'abeilles, on n'aime pas.
Non, la piqûre des scorpions, ça fait mal. Hein.
Donc j'imagine que la piqûre de scorpion, c'est encore pire. Et en gros, il tourmente les hommes de manière assez incroyable. Enfin, la douleur, ce qu'on voit au verset 6, « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. » De se dire qu'il y ait des douleurs qui nous poussent à vouloir mourir. On se dit que ça sera assez inimaginable.
D'ailleurs, tu posais la question dans le questionnaire. Pour savoir quelle a été la plus grosse douleur que nous ayons pu avoir, et parce qu'à ce moment-là, on a souhaité mourir. Mm. Et en général, même si on a eu une très forte douleur, on répond non. Mais là, en l'occurrence, on voit bien que.
Ici, dans la description, on n'a pas le sentiment que l'homme ait de moyens pour se soustraire à ce tourment. C'est c'est un peu comme si la mort partait en vacances pendant 5 mois. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir à la mort parce que ça nous donne aussi une perspective pour nous, pour nos vies et pour les gens qui sont autour de nous. De se dire que déjà une des réflexions, c'est de se dire que les hommes ici qui ont rejeté Dieu, qui sont en rébellion face à Dieu, qui sont tourmentés pendant 5 mois, de se dire ils ont envie de mourir, ça montre d'une certaine manière qu'ils n'ont pas vraiment compris leur condition en tant qu'hommes. Et en quelque sorte, là, ce tourment, c'est gentil. Parce que ça ne dure que 5 mois. Parce que Dieu permet ça, et on le verra dans 20 et 21, c'est encore Dieu qui fait grâce. Je vous avais posé la question, est-ce que vous avez l'impression que Dieu est cruel ? Et Dieu, là, c'est de l'amour. Il pourrait tuer ces hommes et les envoyer tout de suite en enfer, et ce serait ça en pire pour l'éternité, Ou au lieu de ça, ils ont ça pendant 5 mois, mais ils sont encore là, ils ont encore une option de...
Ils donnent l'option de choisir.
C'est assez fou, mais je trouve que quand on y réfléchit, on comprend pas nous-mêmes de se dire que les gens qui cherchent à se suicider, de se dire le mensonge de Satan qui arrive à nous faire croire que la mort soit un échappatoire, que ce soit une fuite vers quelque chose de mieux ou un néant, ou alors que la Bible enseigne que c'est pire, quoi. C'est si on n'est pas avec Dieu. Tout ce qu'on peut endurer ici, c'est gentil encore par rapport à ce que représente l'enfer. Et ce désir de mourir qui est finalement une illusion, un mensonge de penser. Là, quand on lit ce passage aussi, on se dit, mais comment c'est possible si je me jette du haut d'un immeuble? Bon, je meurs, hein. C'est pas comment c'est cette histoire de la mort est partie en vacances et je vais aller courir derrière ou l'appeler au téléphone et il me dit non c'est bon, si je me tire une balle dans la tête, il y a quand même des choses physiques mais là aussi c'est important de réfléchir et de se rendre compte que on comprend pas vraiment la mort. On ne comprend pas la réalité de la nature humaine. Les docteurs ne comprennent pas vraiment la mort. Il y a des gars... La dernière fois, j'ai vu un article. Un gars qui était défenseur, qui joue au foot, je ne sais plus comment il s'appelait, qui, un jour, sur un terrain de foot, il jouait pour l'équipe de France, dans les années 70. Et un jour, dans un petit match, il a eu un truc dans le cerveau, il est tombé. Et le gars, il est dans le coma depuis... Il est toujours vivant dans un lit d'hôpital. Ça fait 30 ans qu'il est dans un lit d'hôpital. Et j'ai fait, mais c'est... Et le gars, il n'est pas mort. Enfin, on ne sait pas vraiment, quoi. C'est un peu...
Il est artificiel. Il est vivant artificiel.
Enfin, disons qu'on peut... Il y a des fois où le corps est encore, fonctionne encore et l'esprit s'en va, ou la personne... Il y a vraiment une limite, là, qui est encore au-delà de... On ne comprend pas vraiment. Il y a des fois où on peut garder le corps en vie, mais il n'y a plus de réponse, il n'y a plus rien dans la tête. C'est un peu... Et cette idée de penser qu'en fait, Dieu, d'une certaine manière, s'il a envie, il peut dire non, le corps ne fonctionne plus, d'accord, mais l'esprit va rester là. Et c'est en quelque sorte ce qui va se passer, c'est-à-dire que les hommes vont chercher la mort, vont essayer de... Et Dieu va dire non, vous êtes... Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs passages où la Bible parle de la mort comme étant une bénédiction. D'une certaine manière, où on est dans un corps humain qui se détruit, qui est limité, qui avec l'âge ne marche pas bien. Et finalement, la mort, c'est bon, ben, à un moment, il y a le corps, il ne marche plus. Et donc Dieu, en quelque sorte, il nous dit bon... Le corps ne marche plus et donc je te libère de ce corps. Et donc quelque part, c'est pas non plus nous on comprend pas, mais c'est un peu comme si les gens ils vont chercher à mourir et ils vont rester coincés et ça donne aussi un côté horrible à la situation de se dire que imaginez quelqu'un qui saute d'un immeuble qui se retrouvent broyés, cherchant la mort, ils n'arrivent pas à la trouver, et qui restent coincés dans leur corps. On parle de l'euthanasie, où les gens qui ont des accidents, et qui n'en peuvent plus, qui sont déprimés, là, ça va être encore pire, ça va être... Les gens vont chercher à mourir, et ils vont pas y arriver.
C'est un cauchemar,
hein. Mais cette idée, pour moi, vraiment de penser que Dieu, même dans cette chose horrible, il y a une grâce quand même. Parce qu'on peut lire ces passages et dire, mais Dieu, il est horrible, pourquoi il fait ça mais de se dire que il pourrait tout de suite envoyer les gens en éternité et dire, on en finit, et puis voilà. Et puis, je pense que c'est important d'y réfléchir et d'arriver à en parler avec Dieu pour faire un peu le point à ce niveau-là. Parce que si
J'ai une question.
Oui.
Mais le dernier verset, ça dit que quand même les gens ne vont pas changer.
Oui, alors ça on verra.
Et ça. Oui, Dieu est grâce, mais quand même, ça, c'est pour rien. Peut-être. Mmh.
Mais on pourrait dire qu'à ce moment-là, s'il est, il fait d'autant plus grâce, si c'est à l'avance que l'homme ne va pas faire et qu'il attend quand même. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de gens pendant cette période qui viendraient à Jésus, alors peut-être pas ici, mais c'est vrai. Et ça, c'est la dureté du cœur de l'homme, et on verra un petit peu ça après. Verset 7 à 10. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme des visages humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles de lions. Elles avaient des poitrails comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était leur pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Donc, ces sauterelles ont l'air comme des chevaux équipés pour le combat. Une idée de vitesse, de déplacement, avec des couronnes d'or et une notion d'autorité. Des visages comme des visages humains, là encore ça donne une idée d'intelligence. Des cheveux de femme, des dents de lion. Cheveux de femme, je ne sais pas ce que ça implique. Dents de lion, peut-être une notion de danger, de force. La cuirasse de fer sur leur poitrail, on a l'impression qu'elles sont invulnérables, qu'il n'y a pas de moyen de les attaquer. Des bruits de leurs ailes comme le bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent, ça impressionne.
Tu dis idée de vitesse, de
déplacement.
Déplacement.
Des chevaux.
C'est pour ça.
Et les queues semblables aux aiguillons des scorpions avec le pouvoir de nuire aux hommes. Donc vraiment des bêtes impressionnantes. Là aussi il y a des tentatives d'explication ou d'interprétation en disant que c'est peut-être des hélicoptères, là, cette idée de bruit de leurs ailes comme le bruit de char à plusieurs chevaux. S'il y avait un hélicoptère avec le bruit que fait le moteur d'un hélicoptère, qu'est-ce que dirait Jean à ce moment-là? Les aiguillons, alors c'est on a les balles, les fusées, les missiles, les tasers, enfin les nouvelles armes dont parlait Maurice avec les ondes ou les lasers ou les choses comme ça qu'ils développent actuellement. Donc on ne sait pas. Là aussi on tombe dans la spéculation, mais on sait que c'est quelque chose qui représente une force démoniaque et qui est dirigée par celui qui vient au verset 11. Elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme dont le nom hébreu est Abaddon et qui en grec se nomme Apollyon. Donc Abaddon et Apollyon, ce sont deux mots qui veulent tous les deux dire le destructeur. Et donc a priori c'est Satan. Une idée que toutes ces sauterelles sont unies et suivent la direction de ce roi. Certains disent qu'éventuellement c'est peut-être un ange déchu de haut rang qui font des distinctions entre celui qui ouvre l'abîme et ceux qui en sortent. Mais bon, ça semble assez. Oui, je le semble assez direct. Verset 12. Le premier malheur est passé, voici que deux malheurs viennent encore après cela. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces premiers. Ce qu'on vient de voir depuis le début du chapitre 9? Ok, lisons à partir du verset 13 alors. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venir des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et dire au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve l'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents, elles ont des têtes et c'est par elles qu'elles font mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent et de bronze, de pierre et de bois qui ne peuvent voir, ni ne voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Donc verset 13, une voix qui sort d'entre les quatre cornes sur l'autel d'or qui est devant Dieu. Là aussi, on a cette impression que c'est quelque chose qui vient, encore une fois, peut-être, de cet endroit où les prières des saints sont adressées, de cet autel devant Dieu, qui ça émane de ces prières. Ce deuxième malheur, on ne le verra pas ce soir, mais il finit au chapitre 11, verset 13, avec un tremblement de terre à Jérusalem. Cette voix dit donc à ce sixième ange: délie les quatre anges qui sont enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate. L'Euphrate, c'est pas un bon symbole, a priori, qui est plutôt associé à des choses un petit peu de rébellion de l'homme. Oui, qui était une des limites du jardin d'Éden, qui était une limite aussi qui devait être une limite du territoire d'Israël, la terre promise, et qui n'a jamais vraiment été, ne serait-ce qu'approchée par le peuple d'Israël, et qui est souvent, il y a Babylone et pas mal de choses, et pas mal des choses dans la Genèse avec les premiers épisodes, avec Cain, Abel et la tour de Babel et toutes ces choses-là qui se passent autour de ces régions-là. Ces quatre anges, a priori, par rapport à ce qu'ils font, ne sont pas des anges bénéfiques. Il n'y a pas de raison de penser que ce sont les anges qu'on a vus dans Apocalypse 7.1 qui retiennent les vents. Ici, ce sont quatre anges qui étaient attachés. Donc, il n'y a pas de raison de penser que Dieu attache les anges qui lui sont fidèles. Pas de raison à ça. Et les quatre anges étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Donc ces anges sont destructeurs, sont des êtres mauvais qui sont contrôlés, encore une fois, qui sont retenus par Dieu jusqu'au moment opportun. Le jour, le mois et l'année et l'heure, on peut penser que c'est dire, bon, ben, au moment décidé, ça s'est produit. Certains commentateurs pensent que l'idée, c'est que c'est une sorte de manière de décrire les dates dans l'ancien temps où ils disaient... Si un jour ça représente une année, que ce serait en fait 13 mois, un jour et une heure. Alors, mais quoi qu'il en soit, ils tuent, quand ils finissent leur œuvre, ils ont tué un tiers des hommes. Ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est que si précédemment dans les sceaux, il y a un quart des hommes qui ont été tués, par la mort, par les pestes, par les choses dans le chapitre 6, après, avec ce qui reste, avec ce tiers des hommes qui restent, en faisant les calculs, on arrive à la moitié de toute l'humanité qui, à ce moment-là, après ce passage-là, a été tuée d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment quelque chose de violent, là aussi, des chiffres qu'on ne peut pas comprendre. Dans les épisodes de l'histoire, on l'a dit dernièrement, les guerres mondiales, les grands épisodes de peste, de famine, de choses qu'on a pu connaître, sont des ordres, des puissances de 10 inférieures. C'est même pas comparable. D'avoir les 3, 4 milliards d'hommes qui meurent, comparé à 40, 50 millions pendant une guerre mondiale, c'est des magnitudes de différence. Verset 16. Le nombre des combattants de la cavalerie était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Donc myriades de myriades, 2 myriades de myriades, a priori ça fait 200 millions. C'est une armée bien plus grande que ce qu'on peut avoir en France. Là aussi, de ce qu'on peut avoir connu dans les grandes guerres de l'humanité. D'où vient cette cavalerie? Pourquoi est-ce qu'ils attaquent? A priori, ces quatre anges mènent cette grande bataille, mènent cette armée. On voit verset 17. Ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe ou bleu et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Donc encore des images assez horribles qui respirent la menace, la violence. Est-ce que c'est une armée humaine ou démoniaque? On ne sait pas. Ici aussi, avec la description des sauterelles avant, on peut se dire que peut-être que c'est une armée de démons là aussi. On voit qu'aujourd'hui, avec la démographie humaine et les situations militaires dans le monde, c'est quelque chose. Une armée de 200 millions de personnes, c'est pas quelque chose d'inconcevable, même si c'est difficile. Bah oui, les Chinois ou même si on combinait plusieurs pays. Si on combinait plusieurs pays, on pourrait arriver à avoir cette quantité en nombre de troupes.
C'est un truc à voir sur Wiki, la dimension de l'armée chinoise en ce moment, je crois que c'est dans des centaines de millions de personnes.
Donc c'est des choses qui peuvent. Il y a 100 ans, on aurait peut-être dit 200 milliards, c'est impossible, 200 millions. Donc bon. Le tiers des hommes, verset 18, fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Donc, le feu, la fumée, le soufre, là aussi, on peut dire que si, par exemple, Jean envoyait des canons ou des missiles ou des armes nucléaires, que ça pourrait sembler un lance-flamme ou j'en sais rien, mais que ça ne serait pas... Ce ne serait pas impossible que ces descriptions tombent dans ce genre de choses. On verra plus loin que cette bataille-là, que ce qui se passe ici n'est a priori pas la fameuse bataille d'Armageddon. Ça, c'est encore autre chose. Donc, il y a encore du sang qui va couler, en quelque sorte. Et la bataille d'Armageddon se focalise plus au Moyen-Orient, alors qu'ici on n'a pas forcément une distinction de géographie, c'est peut-être plus quelque chose de global. De éventuellement, ça pourrait être, par exemple, ce qu'on disait avant avec tout ce qu'il y a eu comme problème, comme bouleversement géopolitique et de tensions, que ça puisse être des batailles entre hommes pour essayer de survivre sur ce qui reste de terre vivable, ou on ne sait pas. Verset 19, car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents, elles ont des têtes, c'est par elles qu'elles font du mal. Là aussi, c'est une description qui peut être peut-être quelque chose de démoniaque. Cette idée de serpent, encore une fois, renvoie à Satan. Ça pourrait être quelque chose qui renvoie évidemment à des imageries que nous on connaît avec des fusils ou des canons ou des... Voilà, quoi qu'il en soit. Un tiers des hommes meurt. Et ensuite, versets 20 et 21, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Et donc là encore, on a une triste réalité des hommes qui refusent de... la vérité, qui refuse de se repentir, qui continue de croire aux mensonges de Satan. Et comme on a dit avant, il y a cette grâce qui va arriver dans les chapitres 10 et 11. Il y a une parenthèse qui va arriver là. On verra la semaine prochaine avec encore une fois Dieu qui a quand même épargné des hommes et qui va quand même faire des choses pour essayer d'amener les hommes à lui. Et là on voit le comportement des hommes qui continuent de se livrer au meurtre, au sortilège. L'idée de sortilège à cette époque-là est aussi liée à l'idée de drogue. C'était souvent des rites qui liaient les drogues et des cultes. Donc les gens pensent que ça fait référence aussi à tout ce qui est drogue et la réalité du monde dans lequel on vit, avec beaucoup de les compagnies pharmaceutiques qui produisent des choses et aussi simplement les drogues pour le plaisir, on va dire. L'inconduite, c'est principalement de l'inconduite sexuelle, et les vols. Et donc là, on voit le monde, c'est encore un petit peu un rappel de l'homme, le monde tel que Satan et l'homme le veulent quand ils rejettent Dieu. Et là aussi, on a du mal des fois, je pense, à comprendre cette idée de quand on rejette Dieu, on a encore envie d'avoir des bonnes choses, mais Et Dieu, à un moment, il va dire, bon, ben, je vous laisse à vous-même. Et c'est encore un rappel de la corruption de l'homme, de tout le mauvais que l'homme fait. Voilà, donc on verra comment Dieu intervient, encore une fois, comment il fait grâce, avec une parenthèse au chapitre 10 et 11. Une parenthèse à ces trompettes avant la septième trompette. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires là, sur le chapitre, la fin du chapitre 9?
Est-ce que c'est décrivé dans quel temps ça va arriver? Dans quel, si ça va durer un an, deux ans?
Pas exactement. On peut faire des recoupements. Essayer de comparer les événements, comme on a dit, avec ce qui va être décrit plus tard, pour essayer d'avoir un petit peu une trame. Mais ici, il n'y a pas de choses par rapport à combien de temps. D'autres questions ? Quelqu'un veut terminer avec un mot de prière ? Vas-y.
Jésus, merci pour ce livre, merci pour ton amour pour nous, pour ce livre d'amour, même si c'est vraiment compliqué d'apprendre et comprendre. Tu es un Dieu d'amour. Merci pour cet enseignement. Et on prie pour nos rêves ce soir. Amen.
Amen.